Vous écoutez France Culture.
L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Journée morte des barreaux aujourd'hui contre une réforme de la justice illisible et inhumaine à la veille de l'adoption prévue du texte à l'Assemblée. Les avocats se mobilisent partout en France. Une mobilisation par ailleurs renforcée après que la ministre de la Justice a créé la surprise en annonçant sa volonté de réformer aussi par ordonnance la justice des mineurs.
Au sixième jour de mobilisation des Gilets jaunes, les autorités semblent visiblement de plus en plus inquiètes.
Du moins, c'est ce que laisse entendre le repositionnement ce matin du gouvernement après que le ministre de l'écologie a finalement choisi de tendre la main à la proposition de la CFDT d'organiser des états généraux de la transition énergétique.
Un nom, Yves Verrier, nouveau secrétaire général de Force Ouvrière.
À 60 ans, le membre le plus ancien du bureau confédéral a été élu ce matin à la tête du 3e syndicat français après la démission de Pascal Pavageau.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel au Japon. En revanche, là, on attend toujours le nom du successeur de Carlos Ghosn.
Oui, le conseil d'administration du géant de l'automobile Nissan se réunit aujourd'hui pour limoger son emblématique président détenu pour des malversations présumé, enfin invité du journal aujourd'hui dans une vingtaine de minutes, Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment récolter la paix après avoir semé la guerre? C'est la question que nous allons nous poser avec nos deux invités. L'un spécialiste de la Libye, il vient de rédiger avec d'autres un rapport pour une organisation indépendante sur l'unité nationale du pays, comment la retrouver, grande consultation. Et avec notre deuxième invité, le premier c'était Patrick Hemzadeh, le deuxième ce sera Ferhat Alani. Il est journaliste, né à Paris mais de parents irakiens. Il raconte sa jeunesse en Irak jusqu'à aujourd'hui dans Le Parfum d'Irak. Ils sont tous deux avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. À chaque jour qui passe et à mesure que se ramassent à l'appel les motifs de la révolte, la palette des couleurs de cet automne de protestation semble décidément s'enrichir d'une nouvelle teinte. Après les gilets jaunes, les blouses blanches, les écharpes tricolores, aujourd'hui c'est au tour des robes noires de se mobiliser dans toute la France. À la veille de l'adoption prévue du projet de réforme de la justice à l'Assemblée nationale. Quand les avocats, vent debout depuis des mois, dénoncent une justice déshumanisée, servant une logique purement comptable, la garde des Sceaux assure pour sa part vouloir moderniser une institution à bout de souffle, avec des tribunaux engorgés et des prisons surpeuplées. Et puis cette fronde pourrait également se nourrir de l'annonce surprise hier à l'Assemblée de la ministre de la Justice sur un sujet hautement sensible. Pour la première fois, Nicole Belloubet a fait part de sa volonté d'utiliser son projet de loi en cours d'examen pour réformer par ordonnance la justice des mineurs. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Avec cette ordonnance de 1945 qui traite notamment de l'enfance en danger. Alors, cette ordonnance a déjà connu une quarantaine de réformes. Elle est devenue au fil du temps un véritable millefeuille, difficilement lisible. Plusieurs ministres d'ailleurs, dont Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas, s'étaient engagés à la réformer sans y parvenir. Et cette fois-ci, il semble que Nicole Belloubet entende créer un code de justice pénale des mineurs.
Oui, elle l'avait déjà dit il y a un mois sur France Info. La nouveauté, c'est que c'est par des ordonnances qu'elle compte réformer cette justice des mineurs dans le cadre du projet de réforme judiciaire en cours. Concrètement, la ministre va déposer aujourd'hui ou demain un nouvel amendement pour permettre cette révision. Et s'il est adopté, ce qui ne fait guère de doute, les ordonnances devraient être prises en 2019. Au ministère de la Justice, on indique que l'on tiendra compte du rapport sénatorial récent sur le sujet. Il prenait une réécriture de l'ordonnance de 45 pour renouer avec son esprit, à savoir la primauté de l'éducatif sur le répressif. Une mission d'information sur la justice des mineurs est par ailleurs en cours à l'Assemblée. La garde des Sceaux a donné hier des orientations très générales sur son projet. Nous devons juger plus vite les mineurs pour qu'ils prennent conscience lorsqu'il y a lieu de la gravité de leurs actes. Nous devons apporter une réponse plus prompte aux victimes, a-t-elle ajouté. Mais d'ores et déjà, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, Anaïs Vrin, qui est également juge des enfants à Nanterre, y voit des intentions très claires.
La question qu'il faut se poser, c'est surtout pourquoi il y a une urgence, à quelques jours de la fin des débats, d'introduire cela, puisque Mme Belloubet, les arguments qu'elle avance pour proposer cette réforme, c'est des choses qu'on entend depuis des années sur la justice des mineurs qui sont fausses, et en tout cas qui doivent être débattues au Parlement.
Qu'est-ce qu'elle dit de faux sur la justice des mineurs ?
Encore une fois, un soupçon de lenteur, de laxisme. C'est un peu fort de café quand même d'entendre ça. Après, la tribune des juges des enfants de Bobigny qui signale qu'il y a un an de délai d'exécution pour les mesures éducatives, c'est-à-dire que des adolescents qui en ont besoin, pour lesquels les juges ont décidé de mettre en place des mesures, elles ne sont pas exécutées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de choix politique de mettre de l'argent sur la protection de l'enfance, sur l'accompagnement des mineurs, qu'ils commettent des infractions ou pas. Et faute de donner les moyens à la justice, après on dit qu'elle ne fonctionne pas.
Pour le syndicat de la magistrature, ça n'est donc pas la loi qui dysfonctionne, c'est son application. Le syndicat réclame plus de moyens et ne souhaite pas un nouveau texte plus répressif.
Merci Antoine Marette. Les tractations auront duré toute la nuit et finalement, c'est donc Yves Verrier qui a été élu ce matin numéro 1 de Force ouvrière. Yves Verrier, 60 ans, ingénieur, qualifié par ses détracteurs de clone de Jean-Claude Mailly, quand d'autres louent plutôt sa bonne connaissance du syndicat en tant que doyen du bureau confédéral. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à peine élu, Yves Verrier aura surtout la lourde mission de remobiliser les troupes et notamment de restaurer l'image d'un syndicat ébranlé par des dissensions internes depuis la révélation de plusieurs scandales.
Oui, des scandales concernant notamment un fichage des cadres de FO, une liste de noms assortis de qualificatifs assez peu amènes concernant leur caractère ou leurs orientations sexuelles. Un scandale qui avait donc provoqué la démission de Pascal Pavageau, élu sur une ligne très opposée à celle de son prédécesseur Jean-Claude Mailly. Il y avait eu ce fichier, mais aussi l'annonce d'un audit interne des finances de FO. Et c'est contre cet audit que plusieurs fédérations et cadres s'étaient aussi soulevés, provoquant la désorganisation que l'on sait. Yves Verrier, le désormais nouveau patron donc de FO, est réputé, vous l'avez dit, proche de la ligne Mailly et aussi Macron compatible, ce dont il se défend. Il était membre du bureau confédéral, ancien ingénieur à Météo France. Il a été élu avec une avance de moins de 200 voix sur son collègue de FO Fonction Publique, Christian Grolier, très loin derrière en revanche, Patrice Clos, le plus proche de Pascal Pavageau. On peut donc dire que la ligne choisie par les adhérents est la ligne réformiste, en tout cas la ligne opposée à celle qu'ils avaient pourtant préférée quelques mois auparavant, ce qui va rendre la tâche d'Yves Verrier d'autant plus compliquée. Il va falloir reconstruire un semblant d'unité dans une confédération très divisée. On estime à 40% les réformistes, à 40% les contestataires. Il devra aussi redonner une crédibilité aux dirigeants confédéraux face à des salariés et adhérents modestes ou précaires pour certains qui estiment qu'ils se sont coupés de la base. Il faudra aussi préparer les élections professionnelles dans la fonction publique qui approche à grands pas et tenter d'apparaître fort face au gouvernement alors que des réformes cruciales s'annoncent, assurance chômage et retraite en tête.
Merci Anne Lorchouin. Alors si Force ouvrière, en l'occurrence, a officiellement appelé à rejoindre les Gilets jaunes, ça n'est pas le cas en revanche de la CGT qui se défend toujours de vouloir récupérer le mouvement, quand bien même d'ailleurs ses revendications sur le pouvoir d'achat sont exactement les mêmes. Quant à la CFDT, elle avait, elle, réussi le pas de deux lundi dernier en proposant par la voix de son secrétaire général Laurent Berger d'organiser des états généraux de la transition énergétique. Cette idée avait aussitôt été saluée par une bonne partie de la classe politique, mais aussi des corps intermédiaires, sauf que jusqu'à présent, elle ne semblait pas en revanche considérée comme une possible solution par le gouvernement. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Et ce matin, François de Rugy donc a finalement estimé qu'il fallait saisir cette proposition. Comment faut-il interpréter ce changement de pied ?
Eh bien, François de Rugy, comme d'autres au gouvernement et dans l'entourage du chef de l'État, se rendent bien compte du danger que représente la mise à l'écart des corps intermédiaires que sont notamment les syndicats. Il y a une inclination, une tendance chez ce président à considérer les corps intermédiaires comme quantité négligeable. On parle des syndicats, mais c'est aussi valable pour les représentants des collectivités territoriales, comme les maires, ou encore les journalistes, qui en tant que médias sont censés jouer un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir et la société. Et donc, tous ces corps qui structurent, qui canalisent la société sont, d'une part, au sein de la population de plus en plus discrédités, et d'autre part, tenus à l'écart par le pouvoir exécutif. Le résultat, c'est ce qu'on voit avec les Gilets jaunes, un mouvement potentiellement inflammable et incontrôlable. Et pour François de Rugy, il convient donc de retisser du lien social, de redonner un peu de corps à une société qui se désagrège. C'est tout le sens de cet appel à saisir la main tendue par le patron de la CFDT, Laurent Berger. Replacer les syndicats dans le jeu et organiser un débat pour que la population s'empare elle aussi de la problématique. C'est aussi en partie le sens de ce que dit ce matin François Bayrou dans une interview au journal Le Figaro. Le mouvement des Gilets jaunes est le révélateur d'une crise profonde de la société française, explique-t-il. Et pour y répondre, il faut des antennes au sein de la société à ceux qui exercent le pouvoir. Antennes que sont notamment les organisations syndicales, dit Bayrou. Mais il faudrait pouvoir aller encore plus loin et impliquer des représentants de ceux qui manifestent, poursuit-il. En tout cas, conclut Bayrou, il ne suffira pas de dire on continue sans rien changer, c'est comme ça et pas autrement. Parce que si on perd l'assentiment de la société, le pouvoir se retrouve paralysé. Ce que disent à la fois François de Rugy et François Bayrou ce matin sonne donc comme des mises en garde adressée à Emmanuel Macron.
Merci Stéphane Robert. Éteindre, là encore et par tous les moyens, les foyers d'incendie quand tous les rideaux du château menacent de prendre feu. Hier, Emmanuel Macron avait convié sous les dorures de la salle des fêtes du palais de l'Élysée pas moins de 2000 élus. Manière non seulement de se faire pardonner son absence, remarquée au congrès annuel de l'Association des maires de France, porte de Versailles, mais aussi de leur promettre un changement de méthode de travail et de concertation censé tourner la page de 16 mois de crispation et d'incompréhension entre l'exécutif et les édiles, ce à quoi d'ailleurs devrait à son tour s'employer aujourd'hui le Premier ministre Édouard Philippe, lequel se déplacera lui dans les salons légèrement moins feutrés du parc des expositions. En Italie, une fronde généralisée des avocats pénalistes s'est soulevée cette semaine après qu'un amendement radical a été ajouté à une loi sur la lutte anti-corruption en discussion à la Chambre des députés. Cet amendement prévoit d'abolir purement et simplement la prescription dès la première décision en instance, une mesure qui vise, selon les autorités, à rendre inutiles les manœuvres des avocats qui chercheraient à faire traîner les procédures jusqu'à ce que les faits soient prescrits. C'est ainsi que les principaux accusés dans cette affaire, en l'occurrence les avocats eux-mêmes, paralysent donc depuis mardi dernier pratiquement tous les tribunaux et dénoncent la mort de l'état de droit. Toujours en Italie, la voie est désormais ouverte à la Commission européenne pour sanctionner la troisième économie de la zone euro pour indiscipline budgétaire. En clair, elle juge que le projet de budget 2019 élaboré par Rome ne respecte pas les règles en vigueur dans l'Union. Dès lors, la confrontation ouverte avec Bruxelles pourrait rapidement se solder non seulement par de lourdes amendes, mais aussi la possible suspension des fonds européens qui versent chaque année à l'Italie plusieurs milliards d'euros. Alors cette double menace est-elle encore de nature à faire plier la coalition au pouvoir? Ce matin, la confusion semble plus que jamais de mise quand certains journaux, à l'instar de la Repubblica, annoncent qu'aucun des deux vice-présidents du Conseil, ni Matteo Salvini ni Luigi Di Maio, ne veut négocier avec l'UE. D'autres, comme Il Messaggero, croient savoir que la Ligue d'extrême droite, contrairement à son partenaire du mouvement 5 étoiles, serait finalement disposée à modifier le projet de budget. Les précisions à Rome de notre correspondante Mathilde Imberti.
Oui, ce sont les coulisses politiques que la presse italienne adore décortiquer et ce qu'il en ressort effectivement, c'est une distance entre les leaders des deux partis au pouvoir, Ligue 5 étoiles et leurs troupes, à la Ligue de manière plus nette encore. Matteo Salvini répète que le budget ne bougera pas, il l'a redit ce matin sur la première chaîne de télévision, quand d'autres dirigeants plaident pour une modification. Paolo Savona, par exemple, le ministre des politiques européennes. Et puis, l'électorat de la Ligue se méfie, celui du nord du pays, les entrepreneurs qui craignent un impact négatif sur leurs affaires, du bras de fer avec Bruxelles, la réaction des marchés. L'appel à une politique plus conciliante arrive en parallèle de la personnalité garante des institutions, à savoir le président de la République, Sergio Mattarella, européen convaincu qui essaye de se faire entendre. Un homme, in fine, chargé de faire la synthèse, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui est attendu samedi par Jean-Claude Juncker pour un dîner. Conte arrivera avec quelques arguments. Il tentera de convaincre le président de la Commission européenne de la bonne volonté de l'Italie. Il devrait parler de ce plan de privatisation sur lequel planche Rome, la vente d'immobilier d'État à hauteur de 18 milliards d'euros. Giuseppe Conte rappellera également que le budget n'a pas encore été voté. Durant les discussions parlementaires, il sera possible d'ajouter des garanties sur le non-dépassement des dépenses ou sur les investissements publics. Il y a donc le discours politique d'un côté et de l'autre, la nécessité malgré tout de négocier pour éviter les sanctions.
À 4 jours d'un sommet crucial censé sceller un accord final sur le Brexit, les négociations patinent toujours et encore, même si le commissaire européen Pierre Moscovici se dit persuadé ce matin qu'un accord finira par être trouvé. La visite éclair de la première ministre britannique la veille à Bruxelles n'a pas permis de percer décisive. Les points de blocage n'ont pas été détaillés, mais plusieurs dossiers, on le sait, cristallisent les tensions, qu'il s'agisse du sort du territoire britannique de Gibraltar, de la nature de la future relation commerciale entre les deux parties ou bien encore l'accès aux eaux britanniques des pêcheurs européens après le Brexit. Londres se dit profondément choquée, menace de possibles répercussions après la condamnation à perpétuité hier par le tribunal fédéral d'Abu Dhabi de Matthew Hedges pour espionnage au profit d'un pays étranger. Ce citoyen britannique de 31 ans, doctorant, s'était rendu aux Émirats Arabes Unis pour mener des entretiens sur la politique étrangère et la stratégie du pays en termes de sécurité. l'audience d'hier a duré moins de 5 minutes, en l'absence, qui plus est, de l'avocat de l'accusé. Reste encore pour Matthew Hages la possibilité de faire appel du verdict devant la Cour fédérale suprême. Réunis derrière les portes closes du conseil d'administration au siège du groupe, ils sont 7, 6 hommes et une femme à devoir décider aujourd'hui de l'avenir chez Nissan, du tout puissant patron du numéro 1 mondial de l'automobile, Carlos Ghosn, dont la vie a brusquement basculé lundi dernier après son arrestation pour malversation financière présumée. Simon Leplâtre, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Yokohama. Alors en réalité, l'issue de cette réunion ne fait guère de doute. La firme s'apprête à lui porter le coup de grâce. A priori, tout autre scénario paraît improbable. De même qu'il serait étonnant qu'Hiroto Saikawa, son ex-dauphin, ne prenne pas sa place. Ce qui signifie, Simon, qu'à peine actée la fin de la formidable épopée de Carlos Ghosn en tant que bâtisseur d'un véritable empire, eh bien, une nouvelle histoire devrait naître rapidement avec cet homme, Hiroto Saikawa, que la presse nationaliste d'ailleurs désigne d'ores et déjà comme un véritable héros.
Normalement, le conseil d'administration devrait nommer l'actuel directeur général Hiroto Saikawa comme président par intérim pour l'instant. Monsieur Saikawa, qui était jusqu'ici peu connu à l'international, hein, tout à l'heure en vérifiant, j'ai trouvé qu'il n'avait même pas de fiche Wikipédia dans une autre langue que le japonais, mais il est entré dans la lumière lors de la conférence de presse de lundi. Le directeur général de Nissan, 65 ans, cheveux ras, était jusqu'ici un homme discret qui a longtemps évolué dans l'ombre de Carlos Ghosn. Il était devenu directeur général en 2017, il était vu comme un proche de Carlos Ghosn, son poulain, et c'est d'autant plus surprenant que l'attaque soit venue de lui. Mais c'est peut-être parce que derrière l'affaire Ghosn, il y avait apparemment la volonté du dirigeant français de renforcer le rapprochement entre Nissan et Renault pour aller jusqu'à une fusion des entreprises, un projet qui ne plaisait pas du tout aux Japonais, car aujourd'hui Nissan est devenu un géant. C'est pas possible. Allô?
Le patron de Nissan est-il en train de vous appeler, Simon Leplâtre? Je crois que nous avons perdu la correspondance.
Excusez-moi, oui. J'aimerais bien qu'il nous donne des informations. Vous m'entendez?
Allez-y, Simon Leplâtre, on vous écoute.
Oui, je suis désolé. Donc derrière l'affaire Ghosn, le point de tension, c'est clairement un projet de rapprochement entre Renault et Nissan, qui était déjà à l'heure, mais que Carlos Ghosn voulait renforcer, qui ne plaisait pas du tout aux Japonais, car aujourd'hui Nissan est devenu un géant qui réalise presque deux fois plus de chiffres d'affaires que Renault. L'agence de presse Nikkei parle d'ailleurs de guerre interne au sein de la direction de Nissan. C'est ce qui fait dire à des sites nationalistes que Saikawa est un héros pour avoir éjecté Carlos Ghosn, une première étape pour redonner le contrôle aux Japonais de cette entreprise.
Merci Simon Leplâtre, en direct donc de Yokohama. L'interview politique du jeudi à présent, invité aujourd'hui du journal Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, PCF, en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés, Sophie Delpont, pour vous interroger. Une première question toutefois, monsieur Jumel, soutenez-vous le mouvement des Gilets jaunes?
Évidemment. Depuis que Macron est aux responsabilités, la France qui va bien, celle des costumes trois pièces, des gilets dorés, l'élite a fait sécession avec le peuple. Et l'expression des Gilets jaunes, c'est cela, c'est ça suffit. Nos vies méritent d'être respectées. Notre pouvoir d'achat mérite d'être entendu et ne doit pas faire l'objet de ponctions au profit de ceux qui font de l'argent en dormant. L'ISF est revenu sur l'ensemble des ronds-points. Donc, sans ambiguïté, nous soutenons cette exaspération de la France qui manque, des territoires oubliés de la République, voire de ceux qui sont humiliés au quotidien par la République.
Une question de Sophie Delpont.
Bonjour Sébastien Jumel.
Bonjour.
Donc vous irez manifester samedi aux côtés des Gilets jaunes avec un gilet jaune sur le dos?
J'étais à leur côté dès vendredi soir à Dieppe où j'ai rassemblé la France en colère. Nous avons écrit les récits de la colère. Vous savez, dans les villes moyennes, en territoire rural, on fait face à ce que j'appelle des opérations de déménagement du territoire. Plus de médecins, des hôpitaux de proximité fermés, des services publics qui se retirent, l'industrie de ceux qui rêvent de la France sans usine, abîmée. Et puis, on culpabilise les retraités. Cette France qui manque, Ces 9 millions de Français qui n'ont pas le choix que de prendre leur bagnole pour aller se former, pour aller étudier, pour aller bosser, sont stigmatisés par cette élite parisienne, ces technocrates déconnectés qui, décidément, n'habitent pas la même France que nous.
Et Sébastien Jumel, le Parti communiste français ouvre un congrès extraordinaire à partir de demain, pour 3 jours. Il va entériner la succession de Pierre Laurent, qui sera remplacé par Fabien Roussel, député du Nord. Est-ce que ça suffira à donner une nouvelle place au Parti communiste dans le débat public et à nouveau faire émerger cette parole communiste ?
Je ne crois pas que ça suffira. Moi, je pense que la vocation des communistes n'est pas de débattre enfermé dans un bocal avec l'illusion du poisson rouge heureux et libre comme l'air. Je pense que la question pour les communistes, surtout avec ce qui se passe, cette disparition des classes moyennes, celle dont parle Christophe Gulli, c'est d'être connecté aux luttes qui s'organisent sur les territoires. Vous savez, moi je suis élu d'une circonscription où il y a des pêcheurs qui sont inquiets face au Brexit. Il y a ces maires ruraux qui disent « nous sommes, quand tout fout le camp, le rempart pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, pour la proximité nécessaire ». Il y a ces agriculteurs qui ne voient pas venir les fruits des états généraux de l'alimentation et qui pensent qu'il y a de la place pour cette économie réelle. C'est celle des ouvriers verriers qui voient les fonds d'investissement prédateurs siphonner chaque jour un peu plus nos savoir-faire et notre tissu industriel. Si les communistes sont connectés à cette réalité-là, s'ils sont l'incarnation des raisins de la colère, des raisons de la colère, alors il y a un espace pour la pensée communiste. S'ils sont dans l'introspection, à se regarder le nombril et à être enfermés, alors je pronostique des lendemains difficiles. L'utilité des communistes, c'est d'être l'étendard de la colère, la force du peuple, la voix des territoires, et d'être un outil au service du rassemblement du peuple qui lutte.
Au niveau pragmatique, comment faire pour continuer d'exister en tant que communiste, alors que la France insoumise, aujourd'hui, sur le devant de la scène, est dans une dynamique, dans quelque chose qui est au premier plan de cette opposition de gauche? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour vous de faire alliance avec la France insoumise, alors même que là, ce qui est prôné par la direction qui va être intronisée dimanche, c'est d'avoir un communiste candidat pour l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive, et c'est de limiter ses alliances avec la France insoumise, qu'on n'est pas à rebours.
Vous êtes une observatrice attentive de ce qui se passe ici, et les parlementaires communistes sont travailleurs, ils ont des arguments solides, et ils sont respectés dans cet hémicycle. Et ils sont respectés parce qu'ils sont l'incarnation de ce qui se passe sur les territoires de vie. Moi, je partage votre opinion que face au rouleau compresseur libéral, face à Macron qui, d'une certaine manière, est Thatcher relooké, rajeuni, repeint, il n'y a pas de place pour une gauche éclatée façon puzzle, pour reprendre l'expression de Blier. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse pour faire en sorte que le peuple de gauche soit rassemblé, additionne son énergie et que l'on fasse cela sans carcan, sans interdit, de Benoît Hamon jusqu'à la France insoumise, et surtout en partant du principe qu'il y a dans le peuple de gauche, dans le peuple qui travaille, dans la France d'en bas, des gens qui sont nulle part et qui attendent un message qu'il y a une alternative au libéralisme qui nous est proposé. Thatcher, devant les mineurs, avait dit « There is no alternative ». Il y a une alternative au libéralisme. Et si les communistes peuvent être utiles pour faire grandir cette alternative, alors ils auront confirmé leur utilité.
Pourtant, aux élections européennes, Yann Brossat est donc le premier chef de file des communistes. Il y a 2 listes distinctes, France Insoumise, communiste. C'est pas un échec de cette stratégie-là, de rassemblement ?
Rien n'est inamovible. Il se passe des choses en France. Les avocats sont mobilisés contre la mauvaise réforme de la justice. La communauté hospitalière se bat contre l'asphyxie du système de santé publique. Les maires revendiquent un aménagement respectueux des territoires. Les gilets jaunes disent « rendez-nous l'ISF, laissez-nous vivre de notre travail ». Et je pense que ça va bousculer les cadres et que rien n'est figé. Et moi, je continuerai à militer pour que, face à la vague brune qui s'annonce en France comme dans l'ensemble des pays d'Europe, face à Macron qui est dans l'humiliation de classe permanente, il faut nourrir une alternative, et l'alternative, il faudra la faire dans l'addition de nos différences, parce que c'est l'addition des différences qui crée des convergences de lutte et des convergences de projets.
Merci beaucoup Sébastien Jumel, donc député communiste de Seine-Maritime. Vous étiez l'invité du journal de midi et demi sur France Culture.
Avec beaucoup de plaisir.
Et merci à vous Sophie Delpont ainsi qu'à Georges Thau pour les moyens techniques. On termine ce journal avec un mot rapide du temps. Un ciel gris, souvent accompagné d'averses à l'exception du sud-est où le soleil reviendra timidement. Les températures, elles sont généralement comprises entre 6 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.